on est dans un processus qui n'est toujours pas achevé. On est dans des négociations très compliquées. On va revenir là-dessus avec un certain nombre de points de friction. Monsieur Christian Lequesne a très gentiment accepté l'invitation de Manon Chomel, qui est la déléguée Proche-Moyen-Orient de notre institut, mais qui gère dans le cadre des cours d'été le module Relations internationales et stratégiques, dans lequel on y insère effectivement une séance sur le Brexit, on l'estime indispensable. Je précise d'ailleurs que le 10 juillet prochain, nous aurons une séance également en ligne, un webinaire avec l'ambassade du Royaume-Uni en France et plus particulièrement le conseiller aux affaires européennes, Simon Atkinson, qui nous donnera son point de vue sur les négociations. Vous pourrez d'ailleurs très facilement aborder le sujet avec lui. Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voudrez. Christian Lequesne, vous êtes professeur à Sciences Po. Vous êtes également cofondateur et co-rédacteur en chef de European Review of International Studies. Donc, j'espère ne pas trop décevoir nos participants pour avoir autant coupé votre biographie, puisque évidemment vous avez un parcours bien plus long que ça. Mais il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Je vous cède sans plus tarder la parole en remerciant une nouvelle fois ma collègue Manon pour cette initiative et je souhaite à toutes et à tous une très bonne conférence. À vous la parole, Monsieur Lequesne.
Merci beaucoup, merci de votre invitation. Alors, on va peut-être commencer par poser la question, est-ce que vous m'entendez? Parce que, dans le fond, le problème technique vient du fait que moi, je n'arrive pas à activer un micro. Donc, David, est-ce qu'on m'entend?
Alors, est-ce que les participants peuvent nous écrire? Oui, ils entendent. Bon, c'est bon. C'est bon.
Parfait, parfait, parfait. Bon, bah, tant mieux. Voilà, alors, vous m'avez demandé ce soir de parler d'un sujet qui n'est pas tout à fait clos, tout simplement parce que. En 1973. Je rappelle que ce référendum n'est pas le premier référendum, puisque moins de 2 ans avant d'entrer dans l'Union européenne, ou un peu plus de 2 ans après être entré, le 1er janvier 1973, il y a déjà eu un premier référendum, 1975, qui avait été organisé à l'époque par un gouvernement travailliste, donc un gouvernement de gauche, sur la question de rester ou pas dans les communautés européennes de l'époque. Et ce référendum avait été positif, donc le Royaume-Uni n'a pas quitté les communautés européennes. Mais pourquoi je cite cela? C'est tout simplement parce que je crois que depuis le début de l'entrée dans l'Union européenne en 1973, le Royaume-Uni a eu du mal à souscrire véritablement au projet politique de l'intégration européenne. C'est-à-dire que le Royaume-Uni est entré avec l'idée que l'intégration européenne, ça allait être un marché, avec un peu de coordination de politique étrangère à l'égard des tiers, parce que l'Union européenne et la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni est un pays qui a toujours eu une politique étrangère, comme la France d'ailleurs, tournée vers le reste du monde, mais guère plus, guère plus. Donc quand on a commencé à parler de citoyenneté européenne, quand on a commencé à parler de l'union politique, les Britanniques, de manière générale, ont eu du mal à s'y retrouver. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu dans l'opinion publique britannique un véritable élan amenant à souscrire à un projet d'Europe politique. Et en ce sens, c'est une différence avec la France ou l'Allemagne. Bien sûr, en France, l'opinion publique a toujours été divisée, mais en tout cas, il y a une partie de l'opinion publique française qui était prête à souscrire à ce projet de l'union politique. Alors là-dessus, il y a eu un très très grand changement qui est intervenu dans l'économie et aussi la vie politique britannique, c'est à la fin des années 80, l'arrivée de Madame Thatcher. Madame Thatcher qui était porteuse d'un projet qui était un projet de libération générale des marchés et de l'économie. Et elle a souscrit d'ailleurs à l'intégration européenne en 1975 lorsqu'il y a eu ce référendum. Il y a des photos où on voit Madame Thatcher défendant le oui au référendum. Mais elle a introduit aussi l'idée que finalement le marché devait, pour ce qui est de l'Europe, comme de son propre pays, les Royaumes-Unis, se suffire à lui-même et qu'il ne fallait pas l'accompagner de régulation institutionnelle. Et à partir de là, dans son propre parti, qui était jusqu'alors toujours pro-européen, le Parti conservateur, on a vu apparaître une nouvelle critique de l'Europe qu'on peut qualifier de critique néolibérale, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'Europe est trop régulée, l'Europe ne donne pas suffisamment de place au mécanisme du marché conçu un peu comme la main invisible, si vous voulez, d'Adam Smith. Et ça a fait naître au sein du Parti conservateur à partir des années 90 un nouveau courant eurosceptique qui d'ailleurs a réussi à avoir la peau de Madame Thatcher, si je puis dire, mais qui ensuite s'est consolidé et a mis en avant finalement un euroscepticisme qui consistait à dire que il fallait quitter l'Europe parce que l'Europe ne permettait pas suffisamment à l'économie britannique, qui devait être une économie tournée vers le monde, de s'épanouir selon les seules règles du marché. Et ce courant eurosceptique s'est consolidé au sein du parti conservateur, au point d'ailleurs que, à partir du milieu des années 90, on peut dire que, comme pour d'autres partis politiques en Europe, je pense au Parti socialiste en France, l'intégration européenne devient une ligne de clivage au sein même du parti conservateur. On a ceux qui défendent l'idée originale finalement des conservateurs qui était de dire c'est mieux d'être en Europe parce que l'Europe, ça va nous aider pour notre activité économique, puis ceux qui disent non, c'est un obstacle à notre activité économique et mieux vaut quitter cette organisation car là nous serons enfin libres d'appliquer les tarifs que nous voulons, les normes que nous voulons, les standards que nous voulons, etc. etc. Et c'est cette fange eurosceptique du Parti conservateur qui finalement a porté l'idée du Brexit en faisant pression sur les premiers ministres conservateurs et notamment sur l'un d'entre eux qui arrive au pouvoir en 2010 et qui s'appelle David Cameron. Et David Cameron essaye de le résister parce que lui, il est quand même assez convaincu que l'Europe, en termes d'intérêt pour l'économie britannique, c'est pas mal. Il n'est pas du tout favorable aux perspectives d'union politique, etc. Tout ça ne lui semble pas très réaliste. Mais en tout cas, le fait de profiter du marché, ça lui semble bien. Sauf qu'il a sur le dos cette fange eurosceptique néolibérale qui commence à développer un discours en lui disant mais ça serait bien que nous allions devant nos électeurs, que vous ne refusiez pas le jeu de la démocratie en organisant un référendum. Et il résiste jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le faire. Et en 2013, dans un discours qu'il prononce dans les studios de la chaîne de télévision Bloomberg à Londres, il s'engage, à mon avis, un peu rapidement, à organiser une consultation devant le peuple britannique. Et finalement, voilà le point de départ. La pression monte et Cameron décide d'organiser ce référendum au mois de juin 2016 en étant persuadé à l'époque qu'il allait le gagner, c'est-à-dire qu'il allait avoir une petite majorité, mais qu'en tout cas, le oui allait l'emporter. Sauf que ce n'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que il y a effectivement une petite majorité, 52% des Britanniques qui se prononcent pour la sortie. Voilà. Mais dans ces 52%, il n'y a pas simplement que des conservateurs néolibéraux. Il y a d'autres aussi raisons de voter pour la sortie du Royaume-Uni. Alors, quelles sont les autres raisons? Eh bien, une d'entre elles, qui est très exploitée par un parti qui se trouve à la droite du parti conservateur et qu'on appelle UKIP, qui est mené par un personnage politique assez charismatique qui s'appelle M. Nigel Farage, lui met en avant la question de l'immigration et notamment de l'immigration des Européens bénéficiant au Royaume-Uni de la libre circulation des personnes. Il faut savoir en effet que lorsque les pays d'Europe centrale et orientale sont entrés dans l'Union européenne, le 1er mai 2004, eh bien, le Royaume-Uni, qui était à l'époque gouverné par un gouvernement travailliste, Monsieur Blair, n'a pas mis de restrictions à l'entrée et au travail, pensant que environ 150 000 personnes allaient arriver d'Europe centrale. Or c'est 1 million citoyens centre-européens qui sont arrivés sur un marché du travail qui, à l'époque, était particulièrement dynamique. Voilà. Donc Farage, il attaque ça en disant on n'a pas contrôlé les flux migratoires et tout ça pose d'énormes problèmes pour nos services publics, notre service de santé qui est public en Grande-Bretagne, nos écoles, etc., etc. Et puis, il y a aussi une partie parti d'opposition travailliste et notamment le leader de l'époque qui s'appelle M. Jeremy Corbyn qui finalement ne se retrouve pas prêt à défendre bec et ongles le projet européen, tout simplement parce que eux sont sur la vieille idée des travaillistes et des ce qu'on appelle le old labour, c'est-à-dire le travailliste d'avant Tony Blair, selon laquelle, alors là, l'Europe c'est trop de marché. L'Europe, c'est pas suffisamment de politique sociale, enfin une critique que vous retrouverez d'ailleurs dans une partie des arguments de la gauche française à l'égard de la construction européenne. Voilà. Donc tout ça, tout ce cocktail que Cameron aurait dû mon avis, anticipé davantage, a fait que finalement, il y a eu une majorité pour la sortie de l'Union européenne. Alors, c'est évidemment un précédent dans l'histoire de l'intégration européenne, puisque il n'y a jamais eu d'exemple d'États membres qui décidaient comme ça, par des moyens d'ailleurs tout à fait démocratiques, hein, de quitter l'Union européenne. D'ailleurs, jusqu'en 2010, jusqu'à la réforme des traités dite réforme de Lisbonne, il n'y avait même pas d'article dans les traités européens qui organisait la sortie de l'Union européenne. Et lorsqu'on a inclus cet article en 2010, on l'a fait avec l'idée que vraisemblablement celui-ci ne servirait jamais. Or, ça n'est pas ce qui s'est passé en 2016. Alors, Cameron a été pris de court, bien entendu. Comme il a perdu le référendum, il a décidé de démissionner. En même temps, les conservateurs se sont maintenus au pouvoir. Et puis, on a eu donc comme successeur Madame Theresa May et maintenant Monsieur Boris Johnson. Alors, Madame May, elle a eu bien du mal parce que on a décidé de lancer les négociations. Et du côté des 27, ce qui n'était pas le souhait des Britanniques au début, on a pris soin de distinguer les négociations de sortie des négociations relatives à un futur accord entre le Royaume-Uni devenu État tiers et les 27 membres de l'Union européenne. Donc il a fallu commencer par la sortie. Négocier la sortie. Et Madame May était prête à faire pas mal de compromis, et finalement, chaque fois qu'elle allait à la Chambre, et elle s'y est pris trois fois, il y avait un refus des députés, donc de valider la sortie ou le traité de sortie de l'Union européenne. Finalement, elle a fini par démissionner. Et puis, c'est un membre déclaré du camp des eurosceptiques, M. Boris Johnson, qui devient le Premier ministre, qui organise des élections au mois de décembre 2019, qu'il gagne d'ailleurs assez largement, et qui réussit donc lui à faire passer les conditions de la sortie. Alors, quelles sont les conditions de la sortie? Bon, les conditions de la sortie, en gros, quels étaient les dossiers qui étaient durs un peu entre les 27 et le Royaume-Uni? En fait, il y avait d'abord la question de la citoyenneté, c'est-à-dire le problème des Britanniques vivant dans l'Union européenne et des Européens ou des citoyens de l'Union européenne vivant au Royaume-Uni. Jusqu'à présent, des deux côtés, il y a une totale libre circulation et liberté totale de travail. Bien sûr, avec le Brexit, les Britanniques souhaitent que cela change. Donc là, les 27 ont dit il faut quand même qu'on reste sur des relations privilégiées. Et de toute façon, si vous imposez des conditions trop strictes, nous appliquerons la réciprocité. Mais il n'empêche qu'il y avait quand même des questions très difficiles, par exemple en matière de sécurité sociale. Quand vous êtes un travailleur de l'Union européenne dans un autre pays de l'Union européenne, vous pouvez bénéficier automatiquement de la sécurité sociale. Là, ce n'était plus possible. Et encore une fois, le nombre d'Européens travaillant au Royaume-Uni, ça n'est pas négligeable, puisque c'est, selon les statistiques britanniques, environ 3 600 000 personnes, dont 800 000 Polonais aujourd'hui, mais aussi 600 000 Français, dont 300 000 Français travaillant à Londres. C'est-à-dire que si vous prenez la communauté française de Londres, la diaspora française de Londres, son nombre est à peu près équivalent à celui d'une grande ville française comme la ville de Nantes, 300 000 personnes. Donc il fallait régler cette question. Deuxième question, les Britanniques, dans le fond, auraient bien voulu que cette sortie permette, en gros, de ne pas sortir complètement du marché intérieur et qu'il y ait une sorte d'application des quatre libertés du marché intérieur à la carte. C'est-à-dire, ils auraient bien voulu rester dans la partie libre circulation des biens, des services dont ils profitent, mais surtout pas dans la partie libre circulation des personnes. Et là, les Européens ont dit niet. Et ça a été une très grande sous-estimation, à mon avis, de la diplomatie britannique, qui a pensé que sur ce sujet, il pourrait diviser les Européens. Or non, les Européens, à partir du moment où on leur a dit qu'il y avait un risque pour l'intégrité du marché intérieur, au contraire, ils se sont unis pour dire il n'y a pas de dérogation au marché intérieur. Soit vous restez complètement dans le marché intérieur et vous négociez une formule comme l'a négocié, par exemple, le gouvernement norvégien, ou alors vous en sortez complètement. Voilà. Donc, l'option d'en sortir complètement est celle qui a été retenue. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, il fallait régler certaines questions de frontières, et les conservateurs avaient totalement négligé qu'il n'y avait pas que des frontières maritimes à régler. Il y avait aussi une frontière terrestre, qui est la frontière entre l'Irlande du Nord, territoire du Royaume-Uni, donc territoire de la couronne, et la République d'Irlande. Et cette frontière, depuis 1998, eh bien, elle n'existe plus. C'est-à-dire que on passe d'une partie de l'Irlande à l'autre, on échange énormément sur le plan commercial, mais même dans les zones frontalières, eh bien, on va faire ses courses au supermarché de l'autre côté, on va chez le médecin de l'autre côté, si, ou chez le coiffeur si on estime qu'il est meilleur, etc., etc. Et là, les 27 ont dit, oui, mais attendez, non seulement vous voulez quitter le marché intérieur, mais en plus vous voulez quitter aussi l'union douanière, c'est-à-dire l'accord qui nous unit face aux pays tiers sur le plan commercial, donc logiquement, il faudrait rétablir une frontière terrestre entre les deux Irlandes. Sauf que cette frontière terrestre, c'était très très difficile de le faire, aussi parce que les Irlandais du Sud ne le souhaitaient pas. Et ils ne le souhaitaient pas pour des raisons qui étaient aussi des raisons symboliques. C'est-à-dire que après 30 ans de guerre civile en Irlande, est arrivé donc ce fameux compromis de 1998 qu'on a appelé l'accord du Vendredi Saint, le Good Friday Agreement, et l'une des conditions du Good Friday Agreement, c'était justement qu'il n'y ait pas de barrière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, c'est-à-dire la partie britannique. Et symboliquement, pour la paix, c'était très important. Mais évidemment, ça avait une logique en 1998, qui était de dire, voilà, il faut qu'il y ait une liberté, une fluidité dans le passage entre les deux côtés, tout simplement parce que les deux côtés appartiennent à cet ensemble plus vaste qui est l'Union européenne. Sauf que là, et voilà, une partie du territoire n'appartenait plus à l'Union européenne. Alors ça a été le point le plus compliqué. Et finalement, les Britanniques ont accepté que l'Ulster, donc la partie britannique de l'Irlande, reste dans le marché intérieur et que les contrôles douaniers en particulier se fasse non pas entre la République d'Irlande et le territoire de l'Ulster, mais entre l'Ulster et le Royaume-Uni, c'est-à-dire en mer d'Irlande. Donc il y a un protocole, et ce protocole, il a été extrêmement difficile à négocier. Ça a été vraiment le point d'achoppement. Maintenant se pose d'ailleurs une autre question qui est sa véritable mise en œuvre, parce que le gouvernement britannique a eu tendance un peu à traîner des pieds pour mettre en œuvre les contrôles, mais on lui a fait comprendre que si il voulait qu'on évolue sur l'autre volet qui est maintenant la relation pour un futur accord commercial, il fallait faire quelques efforts. Voilà. Alors, finalement, on arrive à un compromis. Johnson, fort d'une bonne majorité à la Chambre des communes, réussit à le faire passer, et le 31 janvier 2020, officiellement, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Maintenant, ceci étant fait, ça veut dire aussi que le Royaume-Uni ne négocie plus à Bruxelles, ne fait plus partie du Conseil des ministres, que les fonctionnaires britanniques des institutions européennes ont dû cesser leurs activités, ou certains les ont gardées en faisant l'acquisition d'une nouvelle nationalité, notamment de la nationalité belge. Mais en tout cas, 31 décembre, sortie, sauf que on ne pouvait pas faire ça trop brutalement. Donc, on a décidé qu'il y avait une période de transition qui irait jusqu'au 31 décembre 2020. Et donc, un certain nombre de politiques ne sont pas encore appliquées. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de la question de la libre circulation des personnes. Bon, ben, pour l'instant, on n'a pas encore besoin d'un permis de travail, mais on est incité, si on est un Français de Londres, à s'inscrire sur un site pour avoir ce qu'on appelle un residence permit. Il faut bien sûr remplir un certain nombre de critères, et tout ça sera en revanche obligatoire le 1er janvier 2021. Donc on a pu ensuite commencer la négociation maintenant sur l'accord commercial futur, et on est dans cet accord. Alors, dès le début, du côté des 27, la tâche semblait tellement lourde qu'on a dit aux Britanniques, vous savez, ça sera difficile, techniquement même, d'arriver à boucler l'ensemble des points de la négociation le 31 décembre 2020. Donc, il y a une clause qui vous permet éventuellement de demander une extension, ça serait peut-être pas mal de l'utiliser. Mais Johnson a refusé. Il a refusé pour des raisons politiques, qui est cette idée qu'il veut sortir vite pour montrer à son opinion publique et à ceux qui l'ont soutenu dans ce combat pour le Brexit qu'il a fait la chose, hein, qu'il a réglé le problème, et donc il n'y aura pas d'extension de la période de négociation, en sachant que par ailleurs on a perdu beaucoup de temps avec le Covid, puisque avec le Covid, bien sûr, il était plus difficile de se réunir entre les deux parties, et qu'une réunion par visioconférence, quand on négocie des choses difficiles, c'est pas exactement la même chose qu'une réunion où on est face à face dans une salle de négociation. Alors, on y est. Du côté des 27, il y a un représentant unique qui est identifié et qui est le plénipotentiaire, c'est-à-dire le représentant, le négociateur du 27, c'est un Français, monsieur Michel Barnier, et du côté britannique, c'est un ministre qui s'appelle David Frost. Donc, les équipes de Frost et de Barnier essaient de régler les problèmes. Alors, quels sont ces problèmes? Premier problème, les Britanniques seraient tentés d'avoir un accord qui soit un peu plus qu'un simple accord de libre-échange, même si parfois ils disent qu'un accord de libre-échange simple comme celui qui existe entre l'Union européenne et le Canada leur suffirait, mais en tout cas, en pratique, ils aimeraient un peu plus, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le Royaume-Uni continue à faire 46% de ses échanges avec le continent, ce qui est quand même pas rien. Et les 27 disent au Royaume-Uni, d'accord, d'accord, mais si on vous accorde des facilités qui vont un peu au-delà du libre-échange, une sorte de libre-échange plus, à ce moment-là, il ne faut pas que vous nous fassiez le coup quand même de la concurrence des normes, de la concurrence des standards. Il faut qu'il y ait une certaine harmonisation qui se fasse à partir du moment où nous changeons aussi nos règles sur le plan environnemental, sur le plan social. C'est ce qu'on appelle le fameux level playing field. Et ça, là-dessus, on accroche beaucoup parce que les Britanniques, dans le fond, aimeraient bien ne pas être tenus par cette question de l'harmonisation des normes. Mais à mon avis, ils n'auront guère d'autre choix que de céder quand même un peu sur cette question. Deuxième sujet, ce sont les pêches maritimes. Lorsqu'en 1973, le Royaume-Uni est devenu membre de la Commission européenne, eh bien, il est entré dans la politique commune des pêches et on a appliqué la question de la liberté de circulation des flottes et aussi de la gestion commune des quotas par espèce. Le problème, c'est que les eaux britanniques sont très fréquentées par les pêcheurs d'autres États. Il y a 8 États qui sont concernés, dont la France, mais aussi, vous pouvez l'imaginer, l'Irlande, la Belgique, les Pays-Bas, etc. Et eux, les Britanniques, voudraient retrouver la pleine souveraineté sur la gestion de leurs stocks. Ce qui pose un problème économique, bien sûr, à un certain nombre de pays membres de l'Union européenne, dont les pêcheurs ont l'habitude de fréquenter les eaux britanniques, et parfois même de faire une grande partie de leur prise. Si vous prenez par exemple les Hauts-de-France, les pêcheurs qui sont à Étaples, dans le Pas-de-Calais, plus de 50% de la valeur aujourd'hui de ce qu'ils pêchent, ils le prennent dans les eaux britanniques. Donc, bien sûr, ils veulent le statu quo. Et là, on est en train de négocier en faisant en sorte, d'ailleurs, du côté des 27, que les quotas restent des quotas relativement semblables à ceux qui existaient avant et qu'il y ait finalement le même type de négociation chaque année pour chacune des espèces, simplement avec une Grande-Bretagne qui n'est plus membre de l'Union européenne et qui est un État tiers, ce qui se fait d'ailleurs avec un autre État assez bien qui est la Norvège. Sauf que les quotas sont par espèce et les Britanniques, eux, disent oui, mais ça va pas, ce système par espèce, il faut que ce soit par zone de pêche parce que il y a des zones qui sont plus poissonneuses que d'autres et donc il faut qu'on ait la possibilité de différencier la présence des navires européens en fonction du caractère très poissonneux ou non des zones de pêche. Voilà. Troisième volet de la négociation, c'est ce qu'on pourrait appeler la gouvernance. Les Britanniques aimeraient bien qu'il y ait plusieurs accords, des accords spécifiques à côté d'un accord cadre général, mais relativement limité au principe. Et là, les 27 disent non, on veut tout mettre dans un même accord. Et puis, dernier point, est-ce qu'on va inclure la collaboration en matière de politique étrangère et en matière de défense, dans l'accord ou pas? Est-ce qu'il faut faire un accord particulier? Bon, les Britanniques seraient plutôt favorables à un accord particulier, mais là aussi, les Européens leur disent non, on veut que tout soit dans le même accord. Voilà. Alors, on est en train de négocier tout ça. On a jusqu'au mois d'octobre, grosso modo, parce qu'après, il faut se retourner vers les parlements nationaux, aussi bien du côté britannique que du côté des 27 États membres. Et on verra si cet accord peut entrer en vigueur le 1er janvier. Il est possible que cet accord n'entre pas en vigueur, tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Et à ce moment-là, eh bien, les échanges commerciaux entre les 27 et le Royaume-Uni seront simplement régis par les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Voilà. Mais je ne crois pas que ce soit véritablement le souhait de M. Johnson, car Johnson est un homme politique beaucoup plus pragmatique que ce que l'on. Enfin, que la manière dont on le décrit parfois, je crois que c'est assez faux de dire que c'est une sorte de Trump britannique. Pas du tout. Il est beaucoup moins idéologue. C'est un opportuniste politique, ça certes. D'ailleurs, il sait gagner les élections, mais il sait aussi, si vous voulez, faire monter la tension jusqu'à un certain point sur le plan politique pour ensuite accepter des concessions pragmatiques, parce qu'il y a aussi derrière les intérêts économiques de l'industrie britannique. Alors voilà, je pourrais vous dire un mot maintenant sur les conséquences de tout cela, et puis je vous laisserai la parole pour des questions. Sur le plan économique, moi je pense que les Britanniques ont beaucoup plus à perdre du Brexit que les 27 n'ont à perdre, mais vous trouverez parmi les économistes qui sont pro-Brexit des gens qui vous diront absolument le contraire, parce qu'ils vous diront que ça permettra de libérer les énergies et puis de faire des accords bilatéraux avec l'Inde, avec la Chine, etc. Très franchement, il y a une surestimation chez les Brexiteurs du poids réel aujourd'hui de la Grande-Bretagne dans le monde, hein. Ça, c'est un des problèmes de l'idéologie Brexiteur, c'est de considérer un peu trop que la Grande-Bretagne reste marquée par son destin impérial et, à mon avis, difficulté à accepter qu'elle est devenue une sorte de puissance moyenne par rapport à la Chine, à l'Inde, etc. Mais du côté européen, vous avez quand même des pays qui seront plus affectés que d'autres. Bien sûr, la République d'Irlande, qui fait beaucoup de commerce avec le Royaume-Uni, mais aussi les Pays-Bas, par exemple. Les Pays-Bas ont un commerce bilatéral assez important, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire. Même, vous savez, les sandwichs qu'on achète dans les chaînes type Prêt-à-manger, Costa, etc. à Londres, très souvent sont fabriqués aux Pays-Bas, et tout ça part chaque jour par camion et par ferry. Le Danemark aussi sera plus impacté que d'autres États. La France, dans le fond, pas tellement, sauf dans le secteur de la pêche, dans le secteur un peu des transports routiers, parce que il y a toute une industrie du transport routier transmanche, notamment dans le nord de notre pays, dans les Hauts-de-France. Et puis, il y aura un peu d'impact sur les fruits et légumes, parce qu'il y a des producteurs français qui enfin, commercent pas mal et envoient leurs produits frais, notamment en Grande-Bretagne. Pour le reste, ça ne sera pas, je crois que du côté des 27, ça ne sera pas dramatique. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que ça n'affaiblit pas quand même le poids de l'Union européenne, notamment sur la scène internationale. Parce que vu de Pékin, vu de New Delhi ou vu de Brasilia, bien sûr, la sortie du Royaume-Uni, ça veut dire une forme de désintégration de l'Union européenne. Si vous prenez la politique commerciale aussi, où là il y a une vraie politique commune, notamment dans la représentation à l'Organisation mondiale du commerce, bon, bah, le fait de perdre le Royaume-Uni, c'est quand même pour les deux. Pour l'Union européenne, un grand partenaire qui s'en va. Et c'est bien ainsi que le perçoivent les États tiers. En même temps, vous pouvez retourner la question et dire que ceci peut favoriser les compromis au sein même de l'Union européenne. Et nous avons un très bon exemple. Suite à la crise du Covid, il a fallu négocier durement un plan de relance pour financer justement les budgets publics qui ont beaucoup dépensé pour soutenir le chômage partiel, pour soutenir la cessation d'activité des entreprises, etc. L'Allemagne s'est ralliée à ce plan, ce qui n'était absolument pas gagné d'avance. C'est quand même un plan de 750 milliards d'euros. Bien sûr, il y a des résistances au nord de l'Europe encore, je pense aux Pays-Bas, je pense à la Suède, je pense au Danemark ou à l'Autriche. Mais si on avait eu la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, à mon avis, la résistance aurait été beaucoup plus forte. Et les pays que je viens de citer, qui sont des pays quand même de taille moyenne, auraient bénéficié beaucoup de l'appui britannique. Et on ne sait pas dans ce cas-là, d'ailleurs, quelle aurait été la réaction de l'Allemagne. Donc, vous voyez, on peut en même temps dire que grâce au Brexit, on a pu là négocier un plan de relance sans qu'il y ait trop d'obstruction de la part d'un grand pays qui, bien sûr, lorsqu'il était dans l'Union européenne, comptait au moment où il fallait prendre les décisions. Voilà. Alors, est-ce que ça va donner des idées aux autres? Parce que on a beaucoup parlé de l'effet boule de neige du Brexit. Oui, certains partis eurosceptiques, notamment à l'extrême droite du spectre politique, ont été tentés de mettre en avant l'exemple du Brexit pour demander la même chose, pour demander en France un Frexit, aux Pays-Bas un Exit, etc., un Chexit en République tchèque, etc. Mais finalement, ont abandonné un peu cette option, à mon avis pour deux raisons. La première, c'est qu'ils se sont rendus compte avec les négociations britanniques que sortir de l'Union européenne, ça n'était vraiment pas simple. Et deuxièmement, parce que dans le fond, dans aucun autre État membre de l'Union européenne, vous avez une vraie majorité en faveur de la sortie de l'Union européenne. Vous avez des critiques fortes, un manque de confiance dans les institutions européennes, bien sûr, mais vous n'avez pas forcément une majorité en faveur de la sortie. Et c'est bien ce que Mme Le Pen, lors des élections de 2017, a compris. Elle a commencé par mettre en avant l'idée du Brexit. Après, elle s'est rendue compte que ça ne marchait pas tant que ça, donc elle a parler d'une sortie de la zone euro, c'est-à-dire le retour au franc, et puis finalement elle a abandonné totalement le slogan. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte qu'au sein même de son électorat, c'est-à-dire de l'électorat votant pour le Rassemblement national, ben, il n'y avait pas une belle unanimité en faveur de la sortie de l'Europe. Il y avait beaucoup de critiques, mais la sortie de l'Europe, notamment chez ceux qui représentaient les classes moyennes, car une des caractéristiques des extrêmes droites européennes, et c'est particulièrement vrai en France, c'est d'avoir commencé à attirer d'abord un électorat ouvrier, ce qu'il reste de l'électorat ouvrier, car c'est une catégorie socio-professionnelle quand même qui est en forte diminution depuis 30 ans, mais ensuite de passer aux classes moyennes. Et quand vous dites aux classes moyennes françaises, vous savez, on va peut-être sortir de l'Europe et sortir de l'euro, immédiatement, ils se posent la question de la valeur de leur propriété, des économies qu'ils ont placées, bref, de la déstabilisation du système économique. Donc, voilà pourquoi, à mon avis, ce scénario du Brexit, dans le fond, n'a pas essaimé, comme on a pu le penser, de façon automatique dans les autres États de l'Union européenne. Voilà donc ce que je pouvais vous dire, hein, en essayant de faire une sorte de tableau assez macroscopique. Et je serais heureux maintenant de pouvoir échanger avec vous et répondre à vos questions.
Merci beaucoup, Christian Lequen, pour cette intervention très éclairante qui dresse un portrait assez complet de la situation, des prémices et de la difficile séparation. Hein, c'est l'intitulé qu'on a donné aujourd'hui. On voit, et vous l'avez dit, que ce n'est pas du tout évident de sortir de l'Union européenne pour toutes les raisons que vous avez évoquées. C'est quelque chose d'immensément complexe. Et maintenant, on va passer à la partie questions-réponses des auditeurs qui vont pouvoir lever la main virtuellement et poser leurs questions de vive voix ou alors poser leurs questions par écrit, auquel cas je relaierai de vive voix. Comme ça, vous pouvez vous concentrer uniquement sur les réponses. Alors, qui veut bien se lancer et poser des questions? Je ne doute pas que l'auditoire a des questions. Mais que ce soit toujours long à l'allumage, le temps que le premier ose se lancer. Alors, Mathilde, merci monsieur. Quelle est la position de l'Écosse dans les négociations et dans la prise de décision finale?
Oui, c'est une très bonne question, Mathilde. J'aurais dû peut-être évoquer, lorsque j'ai parlé des résultats du référendum, des clivages. Et il y a eu plusieurs types de clivages. Le clivage principal, dans le fond, n'était pas un clivage partisan. Ça, je l'ai dit. Il y a plus d'électeurs conservateurs qui ont voté pour le Brexit que d'électeurs travaillistes, mais il y a aussi des travaillistes qui ont voté pour le Brexit. En revanche, il y a eu clairement un clivage générationnel. Et là, c'est très, très éclairant. Les plus de 60 ans ont massivement voté pour le Brexit, alors que si vous prenez la catégorie des 18-24 ans, qui ne s'est pas considérablement mobilisé le jour du vote. Mais le résultat, c'est que 72% de ceux qui sont allés voter dans ce segment des 18-24 ans ont voté contre le Brexit. Hein, ce que moi, je trouve d'ailleurs un peu... Enfin, c'est une sorte de confiscation par la génération qui a déjà fait sa vie de l'avenir de la génération qui est en train de faire sa vie. Mais ça peut aussi d'ailleurs amener un jour la société britannique à remettre à l'ordre du jour la question de l'adhésion à l'Union européenne. Et puis le troisième clivage, je viens à l'Écosse, c'est un clivage territorial. C'est-à-dire que l'Angleterre et le Pays de Galles ont majoritairement voté pour la sortie, mais en revanche, l'Écosse l'Irlande du Nord ont majoritairement voté pour rester dans l'Union européenne. Et l'Écosse, c'est massif, c'est 62% des électeurs écossais. L'Irlande du Nord, c'était 55%. J'ajoute aussi, puisque je parle de clivages territoriaux, que les grandes villes ont voté contre la sortie. Si vous prenez Londres, par exemple, 59% des électeurs londoniens ont voté contre le Brexit. Alors que si vous prenez des petites villes, notamment de l'est, nord-est de l'Angleterre, là, vous allez avoir des scores qui peuvent aller à 62, 65% en faveur du Brexit. Alors, l'Écosse se trouve en quelque sorte embarquée dans un processus de sortie qu'elle ne souhaitait pas, Il y a un parti au pouvoir en Écosse, puisqu'il y a une forte décentralisation. Il y a un parlement écossais même depuis 1997 qui est le SNP, le Scottish National Party, qui est officiellement donc contre le Brexit. Et la ligne du parti, c'est de dire que le Brexit va amener le Scottish National Party à reposer un jour la question de l'indépendance de l'Écosse du Royaume-Uni. Il y a eu d'ailleurs un premier référendum, mais ce référendum a été perdu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu en Écosse une majorité pour la sortie du Royaume-Uni. Et maintenant, le Scottish National Party dit, puisque il y a le Brexit, c'est une raison supplémentaire pour nous de reposer la question de l'indépendance. Ceci dit, ça c'est le discours officiel. En pratique, la Première ministre d'Écosse, Madame Sturgeon, ne souhaite pas trop se presser, tout simplement parce qu'elle ne peut pas se permettre de perdre un deuxième référendum. Et donc, avant de poser la question, il faut qu'elle soit bien assurée de la réponse, en quelque sorte, hein, ce qui est difficile toujours avec un référendum. Donc, je ne pense pas que le référendum sur l'indépendance sera organisé demain. En plus, il faut que Londres donne son aval. Mais en tout cas, la dynamique de l'indépendance, elle est bien présente en Écosse, et nous ne pouvons pas exclure qu'un jour, il y ait une majorité des Écossais qui décident de quitter le Royaume-Uni.
On a une question de Estelle qui lève la main pour poser une question de vive voix. Je vous active le micro et je vous laisse la parole, Estelle.
Oui, merci. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Vous nous avez un peu parlé des conséquences sur plan économique, mais moi, ma question, c'était au niveau de l'écologie. Est-ce que vous pensez que la sortie du Royaume-Uni, ça pourrait avoir un impact au niveau des projets européens basés sur l'écologie? Est-ce qu'ils fonctionneraient mieux et est-ce que justement il y aurait moins d'obstructions? Ou alors l'inverse, est-ce qu'on aura moins de portée et qu'on pourra moins améliorer les choses au niveau écologique?
Ben c'est une des questions d'ailleurs qui est sur la table à propos du fameux level playing field, c'est-à-dire la question de l'harmonisation des normes et standards. Les conservateurs britanniques ont un discours qui est plutôt un discours un peu à l'ancienne sur la dynamique du marché, etc. De ce point de vue, d'ailleurs, ils rejoignent un peu la présentation que fait Trump et que font les Trumpistes de l'économie. Sauf qu'ils sont pas comme Trump, ouvertement contre la COP, etc. Ils ont un peu plus de nuances dans le discours. Mais c'est quand même l'idée que il faut produire au moindre coût et être compétitif on l'était de façon traditionnelle jusqu'alors, c'est-à-dire sans trop prendre en compte la contrainte écologique. C'est tout à fait différent chez les travaillistes, bien sûr, qui eux sont très 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 ralliés à l'idée de l'économie verte, etc. Alors, je pense que pour le Royaume-Uni lui-même, ça risque d'être un débat assez assez fort, c'est-à-dire que si on a une vraie diminution des normes et standards, à la fois sur le plan social et sur le plan environnemental, il y aura des réactions fortes, notamment de la jeunesse britannique, qui est aussi sensible à cette question écologique que le reste de la jeunesse européenne. Pour l'Union européenne, c'est vrai que ça n'est pas le pays comment dirais-je, qui était le plus allant sur les politiques environnementales qui quitte un pays qui était un peu pour le service minimal. Oui, si on parle de Green Deal dans l'Union européenne, et il semblerait que ce soit au cœur du projet, notamment de Mme von der Leyen, la présidente de la Commission, le fait que la Grande-Bretagne ne soit pas là, ça veut dire plutôt des obstructions en moins que des obstructions en plus. Donc voilà, et ça c'est un point sur lequel d'ailleurs les Britanniques, souvent proches des Scandinaves, avaient des différences, parce que les Suédois, les Danois, mais aussi les Néerlandais sont très sensibles à la question environnementale.
Merci. On a une question de Mathéo. Bonsoir professeur, merci pour votre conférence. Pensez-vous que le fait d'avoir conservé sa monnaie, d'avoir toujours entretenu des relations étroites avec les États-Unis, ont pu être des facteurs facilitant un Brexit? Sans ces derniers, la sortie de l'Union européenne aurait-elle été envisageable dans les mêmes conditions?
Alors, il y a deux éléments, Mathéo, dans votre question. Le premier, c'est la monnaie. Oui, je pense que si la Grande-Bretagne avait été membre de la zone euro, ce qu'elle n'a jamais été, évidemment, ça aurait été plus compliqué pour elle encore de quitter l'Union européenne, tout simplement parce que je passe sur les questions vraiment économiques, mais souscrire à la monnaie unique, c'est aussi souscrire davantage au projet de l'union politique. Or là, les Britanniques ont toujours pris soin de dire nous ne voulons pas de la monnaie unique, aussi parce que nous ne souhaitons pas cet engrenage vers l'union politique que la zone euro implique. Donc ça, c'est la première chose. Les États-Unis, vous savez, Trump a joué un rôle qui n'était pas neutre dans le Brexit, c'est-à-dire qu'il a ouvertement soutenu le Brexit pour attaquer l'Union européenne. Et c'est la première fois d'ailleurs dans l'histoire américaine qu'un président des États-Unis soutient officiellement la désintégration de l'Union européenne. On n'a jamais eu ça. On a eu avec George W. Bush, bien sûr, au moment de la guerre en Irak en 2003, des différends sur l'intervention ou non pour essayer de venir à bout de Saddam Hussein. Mais il n'y a jamais eu dans l'administration Bush de soutien à la désintégration de l'Europe. Donc là, on a franchi un pas supplémentaire. Ceci dit, à mon avis, les Américains ne considèrent pas que la relation spéciale avec la Grande-Bretagne soit aussi importante que cela pour leur diplomatie. Après tout, ce qui compte pour les États-Unis aujourd'hui, c'est la relation avec la Chine, hein. C'est ça le point important. Et pour ce qui est de l'Europe, qui reste quand même un allié, on préfère traiter avec l'Europe comme un ensemble plutôt que de traiter avec les pays individuellement. Donc la Grande-Bretagne devient finalement une puissance moyenne indépendante. Je ne suis pas sûr que ce soit une véritable priorité de politique étrangère pour Donald Trump. Voilà, et l'autre point, ça c'est une question vraiment qu'il va falloir regarder, c'est que si vous prenez les positions de politique étrangère du Royaume-Uni depuis 10 ans, dans le fond, sur les grandes questions, ils ont été plus proches de Berlin et de Paris qu'ils ne l'ont été de Washington. L'exemple le plus significatif étant la question des sanctions à l'égard de l'Iran. Là, il y a vraiment eu une sorte d'unanimité franco-germano-britannique. Voilà. Donc, est-ce qu'ils vont véritablement profiter sur le plan notamment de la politique extérieure de leur relation avec Washington? Moi, j'y crois pas du tout. Je crois que sur ces questions de politique étrangère, que ce soit l'Iran, que ce soit le Moyen-Orient, Syrie, Irak, dans le fond, ils vont essayer de préserver autant que possible une bonne relation informelle avec l'Union européenne.
Merci. Question de Louis. Lors des prémices du processus du Brexit, on évoquait la possibilité d'une déstabilisation de l'Union européenne. Qu'en est-il aujourd'hui avec la crise du coronavirus?
Écoutez, Louis, je pense que on est passé par des phases différentes, l'Europe, à l'égard du coronavirus. Le premier réflexe, lorsque nous avons été informés de la gravité de la pandémie, c'est-à-dire au mois de février, au début du mois de mars, ça a été plutôt un réflexe national et un réflexe de repli. Premier réflexe, ça a été de dire, ceux qui ont des masques et du matériel, essaient de le garder pour eux. Il n'y a pas eu de véritable coordination concernant le confinement. L'Italie et la France très 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 rapidement ont décidé des mesures individuelles, alors que par exemple la Suède a essayé d'appliquer jusqu'à la fin d'ailleurs, mais c'était aussi le cas des Pays-Bas au début, et puis les Britanniques, mais qui n'étaient plus dans l'Union européenne. L'idée de l'immunité collective, donc ça aussi pas d'harmonisation. Et puis sur la question des frontières internes, des frontières de Schengen, aussi on n'a pas eu de véritable harmonisation, puisque certains ont rétabli des contrôles, d'autres ont carrément fermé. Je pense aux Polonais ou aux Autrichiens. Mais très vite, je crois que les gouvernements européens se sont rendus compte que si on voulait véritablement traiter cette pandémie, ce repli sur soi n'avait pas beaucoup de sens. Mais trop tard, en quelque sorte. Les opinions publiques avaient intégré le fait que l'Europe ne faisait rien, et que donc, si on profitait d'une solidarité internationale, on profitait davantage de la solidarité de la Chine que des autres Européens. Et ce, d'ailleurs, contre la réalité des faits. Par exemple, si vous prenez la coordination sur le plan sanitaire, elle a vraiment fonctionné. Il y a quelques 200 patients qui ont été soignés dans les hôpitaux allemands, parmi eux, pas mal de patients alsaciens de la zone frontalière donc française, qui ont été sauvés dans les hôpitaux du Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-Palatinat en particulier. Même chose pour les hôpitaux du sud de la France. Ils ont accueilli très vite les patients du nord de l'Italie dans les unités de soins intensifs, qui, comme vous le savez, a été très touché par la pandémie. Et puis on a commencé à s'échanger des masques, etc., etc. Et la solidarité, à mon avis, est arrivée ou s'est confirmée davantage avec le plan de relance, donc pour le traitement de l'impact économique. Si l'Allemagne avait dit non, si Madame Merkel n'avait pas accepté la proposition que lui faisait la France, et d'ailleurs qui s'est matérialisée le 18 mai dernier par une initiative franco-allemande, hein, à ce moment-là, la situation aurait été différente. Voilà. Donc je pense que on est parti d'une situation vraiment de repli national, et on a redécouvert davantage la solidarité européenne. Mais en même temps, je ne voudrais pas être angélique. Je crois que un test de vérité très important sera maintenant la question de l'utilisation des fonds. Car cet argent débloqué et qui ira en priorité vers les économies les plus touchées, je pense à l'Italie bien sûr, mais aussi la France, hein. La France est un pays quand même très touché, je pense que ce serait une erreur vis-à-vis des pays du Nord qui ne le toléreraient pas de refuser toute forme de conditionnalité. Or ça, c'est une tentation que je sens un peu dans certains pays d'Europe du Sud, consiste à dire on va refuser toute forme de conditionnalité parce que on ne veut pas que on nous impose la rigueur qui a été imposée aux Grecs entre 2009 et 2012. Or, Voilà, il y a plusieurs formes de conditionnalité. Mais je trouve très important, en tout cas, que cet argent qui vient du contribuable européen et de tous les contribuables européens, on ne l'utilise pas n'importe comment. Et qu'il aille à des projets qui soient innovants sur le plan technologique, qui soient conformes au développement durable, qui favorisent aussi l'économie numérique, car nous avons un retard en Europe par rapport à l'Asie et à l'Amérique. Et donc, cette conditionnalité que j'appelle la conditionnalité positive, je crois qu'il faudra vraiment la respecter. Car si on ne la respecte pas, si cet argent est saupoudré et qu'on puisse en faire la preuve que c'est une espèce de gâchis, à ce moment-là, je veux dire que à la prochaine crise, le contribuable allemand, le contribuable néerlandais, le contribuable danois, là vraiment, il refusera toute forme de solidarité. Voilà. Et je pense que sur cette question de la solidarité positive, de la conditionnalité pardon positive, la France a vraiment un rôle important à jouer de médiateur entre l'Allemagne et l'Europe du Sud.
Merci. Je relaye désormais une question de Apolline, qui vous remercie pour cette conférence très intéressante. Y a-t-il une classe sociale plus favorable à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne qu'une autre?
Alors, oui, Apolline, les études sociologiques nous ont révélé ce que l'on retrouve d'ailleurs de manière générale dans la question du soutien ou pas ou du refus de l'Union européenne. Plus vous appartenez à une catégorie socio-professionnelle élevée, plus vous avez de diplômes, et notamment des diplômes universitaires, plus vous étiez contre le Brexit. C'est-à-dire, en gros, l'appartenance à une catégorie socio-professionnelle et le niveau d'éducation a joué un rôle important dans le oui ou dans le non au Brexit au Royaume-Uni. Hein. Moi, je le vois bien dans mon monde professionnel. Les profs britanniques, je travaille beaucoup avec mes collègues britanniques, pratiquement tous étaient contre le Brexit. Je connais un collègue à Cambridge qui, pour des raisons d'ailleurs qui n'ont rien à voir avec celles du Parti conservateur, était pour le Brexit. Mais dans l'ensemble, tout le monde intellectuel était contre le Brexit. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre en disant voilà. Y a ceux qui sont pas éduqués, ceux qui sont éduqués dans la société. Non. Il faut s'interroger pourquoi dans le fond ce sont les gens qui sont éduqués et qui ont une forme de sécurité dans la société qui sont le plus à même d'accepter le processus de l'intégration européenne. Là, cette question n'est pas qu'une question britannique, c'est une question qui s'applique aussi à l'ensemble des pays européens.
Merci. On enchaîne avec une question de Gaspard, qui vous remercie également pour votre conférence.
Qui me dit, excusez-moi, vous avez sauté ma question. Ah non, c'est Mustapha qui me dit ça. Non.
Alors, je crois, alors il vous l'a peut-être envoyé en message privé, en tout cas, c'est pour
j'ai
ça que…
J'ai pas eu la question de Mustapha, je suis désolé Mustapha.
Je ne la vois pas, ça veut dire qu'il vous l'a envoyé en privé. Et c'est pour ça que je ne peux pas la relayer. Donc Gaspard nous demande, alors le traité de Lisbonne de 2009 prévoit une clause de sortie de l'Union, mais une sortie définitive. En théorie, le Royaume-Uni ne pourra donc pas réintégrer l'Union européenne. Est-il envisageable et probable qu'un jour le Royaume-Uni souhaite réintégrer l'Union? Si oui, comment procédera-t-il? Pourra-t-il contourner ce traité de Lisbonne?
Alors, vous avez tout à fait raison, Gaspard, de dire que l'article 50, car c'est son numéro dans le traité européen, prévoit que la sortie est définitive. Et donc, si le Royaume-Uni souhaite à nouveau adhérer à l'Union européenne, à mon avis, il n'a pas d'autre choix que se prêter à toutes les négociations d'adhésion qui ont été appliquées jusqu'à présent aux États candidats à l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'automaticité consistant à reprendre le Royaume-Uni en arguant qu'il a déjà été membre. Il faudra à nouveau qu'il fasse la preuve, qu'il remplisse, disons, tous les critères fixés par l'Union européenne pour devenir membre. Et j'en profite pour dire que si l'Écosse devenait indépendante et souhaitait être membre de l'Union européenne, ce qui paraît tout à fait vraisemblable si l'Écosse devenait un État souverain, il faudrait également que l'Écosse se prête à des négociations d'adhésion. Question d'ailleurs identique pour la Catalogne, si la Catalogne venait à se séparer de l'Espagne.
Je vais laisser la parole à Louis qui demande à parler de vive voix. Je vous active le micro, Louis, vous pouvez poser votre question.
Bonjour. C'était une question pour demander à propos plus sur la question intérieure au niveau du Royaume-Uni. C'était qu'il y avait Labour, justement, avec Jeremy Corbyn, qui était sur une montée ascendante aux dernières élections, justement, sur la question du Brexit, qui sont un peu cassés la gueule, on va dire. Et ma question, du coup, c'était, c'est quoi l'avenir de la politique en Grande-Bretagne maintenant que le Brexit, finalement, est terminé? Est-ce qu'il y aura une nouvelle dynamique par rapport à l'Union européenne? Je ne sais pas si j'étais clair.
Vous voulez dire du Parti travailliste, c'est ça?
Oui, c'est ça, du Parti travailliste. Est-ce qu'il va y avoir un nouvel élan ou est-ce que la Grande-Bretagne est partie pour 10 ans avec les conservateurs au pouvoir?
Alors, d'abord, le leadership a changé, c'est-à-dire que M. Corbyn a été contraint de partir et le nouveau leader du Parti travailliste, si vous voulez, est plus conforme à la ligne social-démocrate qui a été dominante à l'époque de Tony Blair et à l'époque de son successeur. Et donc on revient à un Parti travailliste qui est moins ancré à gauche et plus ancré au centre. Qui ne l'a été pendant toute la période Corbyn. À mon avis, la grande erreur de Corbyn qui lui a coûté cher, c'est que il a été ambigu sur le Brexit. C'est-à-dire qu'une majorité des électeurs du Parti travailliste étaient vraiment contre le Brexit, mais lui, Corbyn, officiellement, il était contre, mais on sentait bien que dans le fond, il détestait l'Europe. Et cette incapacité de Corbyn à véritablement représenter le camp des opposants au Brexit a coûté très cher au Parti travailliste. Et à ça s'est ajouté le fait que Johnson, est un homme politique avec quand même une sensibilité populiste, a utilisé le Brexit pour rallier au camp conservateur un certain nombre d'électeurs traditionnels du parti travailliste, notamment dans le nord et le nord-est de l'Angleterre, qui n'avaient jamais voté pour le parti conservateur auparavant, et qui même, je dirais, faisait un rejet historiquement du parti conservateur, tout simplement parce que c'était le parti de l'establishment. Voilà. Johnson a réussi à capter avec le thème « Nous allons faire le Brexit » une partie de cet électorat travailliste. Et donc, c'est une reconquête dans laquelle doit se lancer le nouveau leader du parti travailliste. À mon avis, ça dépendra aussi de la réussite du projet économique de Johnson dans la période post-Brexit. C'est en fonction de la réussite ou non de ce projet que les travaillistes pourront capitaliser de nouvelles voix et de nouveaux électeurs. Mais à mon avis, la stratégie de Corbyn consistant à aller vraiment à la gauche, c'est-à-dire à renouer avec les vieilles recettes qui ressemble un peu à du Mélenchon chez nous, si vous voulez. Ça a fait perdre au Parti travailliste une partie de son électorat, notamment les classes intellectuelles urbaines, qui, elles, se retrouvaient beaucoup plus dans un projet centriste. Voilà, donc c'est cette reconquête-là qui, à mon avis, est importante maintenant pour le leadership, ou le nouveau leadership du Parti travailliste.
Alors, pour clôturer cette séance sur le Brexit, on a enfin la question de Mustapha qui me l'envoie en privé et je la relais à tout le monde, et surtout à vous pour que vous puissiez y répondre. Pourquoi le Parlement britannique rejetait le dossier de sortie de Theresa May et quelle est la différence avec Boris Johnson politiquement ?
C'est une excellente question, Mustapha, à laquelle la réponse est difficile, parce que dans les rejets, il y en a eu trois, des compromis présentés par Madame May, à mon avis, il n'y avait pas qu'une seule raison. Il y avait plusieurs raisons. Puisque ce rejet s'est fait aussi bien au sein du Parti conservateur que dans l'opposition. Alors, pour l'opposition travailliste, mais aussi pour les nationalistes écossais qui sont à la Chambre des communes, le rejet du compromis présenté par Madame May, c'était tout simplement le rejet du principe du Brexit. En revanche, pour les eurosceptiques du Parti conservateur, donc de la majorité de Madame May, qui était pour le Brexit, le compromis n'allait pas assez loin, et notamment ils étaient opposés au compromis accepté par Madame May sur la présence de l'Irlande du Nord dans le marché intérieur. Eux, ils étaient pour la sortie complète et donc contre le protocole entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne sur la question de l'Irlande du Nord. Et c'est la raison pour laquelle la situation était impossible pour Madame May. Parce qu'elle n'avait pas un front d'opposition, elle avait plusieurs fronts d'opposition. Et la différence avec Boris Johnson, eh bien, c'est que Boris Johnson a réussi à calmer les oppositions au sein du Parti conservateur. Donc ça, c'est une différence avec Madame May, qui avait un Parti conservateur totalement divisé, sur lequel elle pouvait exercer un faible leadership. Et de plus, j'ajoute, Madame May n'avait pas la majorité absolue. Elle était obligée, pour composer sa majorité absolue, de s'appuyer sur les indépendantistes d'Irlande du Nord, alors que, en gagnant 80 sièges supplémentaires aux élections de décembre 2019, Monsieur Johnson a une confortable majorité. Voilà, ça c'est la différence entre la situation à l'époque de Madame May et la situation telle que la connaît M. Johnson aujourd'hui.
Alors, j'avais prévu de clôturer, mais la question est intéressante et je pense qu'elle clôturera parfaitement le thème du jour. Je ne peux pas donner le prénom de la personne puisqu'elle est sous pseudo, mais ça n'a aucune importance, qui vous remercie pour cette brillante conférence. Quel nouveau rapport diplomatique pouvons-nous envisager entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après le Brexit ?
Écoutez, je crois que les Britanniques comme les Européens sont condamnés en quelque sorte à avoir une relation rationalisée. Hein. Nous ne pouvons pas, compte tenu de la proximité, notamment aussi des échanges commerciaux, mais pas seulement aussi de la proximité culturelle. Il y a quand même la société britannique n'a jamais souscrit au projet de l'Europe politique, mais elle est fondamentalement une société européenne. Nous sommes condamnés quand même à avoir de bonnes relations. Et donc, je pense que si le gouvernement Johnson se lance dans une espèce de guéguerre des normes, des standards, etc., contre l'Union européenne, ça sera une erreur politique énorme, parce que la capacité de l'Union européenne à répondre à ce type de provocation est quand même assez importante. Ça, c'est une des choses, à mon avis, que les Britanniques ont découvert, c'est que dans cette négociation du Brexit, le rapport de force n'était quand même pas de leur côté. Le rapport de force était plutôt du côté des 27, à partir du moment où les 27 étaient unis. Et je pense aussi que sur les questions de politique étrangère, dans le fond, les Britanniques ont intérêt à garder une relation avec Berlin et Paris qui soit aussi bonne que possible, parce que tout simplement leurs intérêts aujourd'hui de politique étrangère sont finalement plus proches des capitales européennes sur les questions du Moyen-Orient, la question de l'Iran, mais aussi la question de l'Ukraine, qu'elle ne l'est des États-Unis d'Amérique. Je pourrais ajouter la même chose sur la question de la lutte contre le terrorisme, par exemple. Il est absolument évident que ce n'est pas parce qu'il y a le Brexit qu'on va arrêter complètement la circulation des terroristes en Europe ou dans l'espace européen. La lutte contre le terrorisme, c'est quoi? C'est d'abord un bon échange entre les services de renseignement, hein, c'est-à-dire que nos services de renseignement travaillent bien ensemble. Ben voilà un exemple où, à mon avis, les Britanniques ont tout intérêt à rester proches des Européens continentaux pour pouvoir échanger convenablement des informations et éviter que le terrorisme ne revienne ou se propage, en sachant d'ailleurs que cette question est une question éminemment complexe, parce que le terrorisme n'est pas toujours le résultat d'une action extérieure. On l'a vu encore d'ailleurs récemment à Reading, au sud de Londres. C'est un jeune homme qui vit en Angleterre, qui est d'origine libyenne, mais qui vit en Angleterre, qui a été élevé en Angleterre, qui est à l'origine de cette action qui a eu lieu dans un parc samedi soir. Voilà. Mais donc je veux pas caricaturer non plus le risque terroriste, mais en tout cas pour toutes ces raisons, je crois que la raison va pousser les Britanniques et les 27 quand même à ne pas se mener la guerre.
Merci beaucoup, Christian Lequen, pour cette excellente conférence et vos réponses aux questions qui étaient très intéressantes et vos réponses très, très complètes. Merci à toutes et à tous pour votre participation et de vous être rendu disponible ce soir de semaine. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Soyons tous attentifs à la poursuite des négociations sur le Brexit. On aura forcément de la grande actualité dans les prochaines semaines. Je me permets de rappeler que le 10 juillet, on a un webinaire avec l'ambassade du Royaume-Uni en France. N'hésitez pas à vous inscrire. Depuis notre site internet, vous retrouverez dans la rubrique événements à venir les modalités d'inscription. À ce titre, monsieur le professeur, vous êtes convié. On vous enverra toutes les informations pour pouvoir y participer. Nous serions ravis que vous puissiez échanger en live devant nos auditeurs avec Simon Atkinson.
Je connais très bien Simon, c'est un bon ami. À mon avis, il sera un peu moins critique que moi oui. Sur le Brexit, mais c'est son travail, c'est son job.
Et ben, ça permettra éventuellement d'équilibrer ses propos. Voilà. Bon, et bien, merci beaucoup et à très bientôt. Bonne fin de soirée à tous.
Bonsoir.
Au revoir. Bonsoir.
Au revoir.